parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine « Droits et citoyenneté ». Mieux connaître vos droits ou bien les défendre, mieux connaître vos devoirs ou bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Encore une fois, bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Que dit la loi congolaise sur les lieux de résidence des officiels? En RDC, certains bourgmestres ne vivent pas dans les communes dont ils assument les fonctions d'autorité municipale, faute des résidences officielles. En revanche, beaucoup d'autres officiels préfèrent garder leur propre maison plutôt que d'occuper les résidences liées à leur fonction. Il n'y a pas que le bourgmestre, il y a même des gouverneurs qui n'ont pas des résidences. Et d'ailleurs, même pour le président de la République, on a suivi dernièrement qu'il y a le palais présidentiel est en construction. Voilà, tout ça, nous allons en parler avec notre invité. Que dit la loi par rapport à ces genres de situations? Maître Ruffin Louko, vous êtes juriste et chercheur en droit. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui est prévu par rapport aux résidences des officiels?
D'abord, le principe remonte depuis l'époque avant la colonie, ça veut dire l'époque de l'État indépendant du Congo. Mm. Lorsque le roi Léopold II reçoit la RDC actuelle comme une propriété privée, il y envoie des fonctionnaires pour administrer sa propriété privée qui était l'État indépendant du Congo. Alors il envoie des fonctionnaires. Alors il signe le 12 mars 1892 le premier arrêté royal qui pose que l'État indépendant du Congo assure le logement de tous les hauts fonctionnaires de l'État indépendant du Congo. Et donc, le principe part de là. Et lorsque vous lisez ces textes, la logique ou la motivation, c'est que l'État, le pouvoir public, ne peut pas payer de loyer dans sa propre juridiction pour ses hauts fonctionnaires. Il ne peut pas payer de loyer à des privés pour loger ses propres fonctionnaires et qui sont chargés de gérer ces privés. C'est ça. Tu t'imagines par exemple, le bourgmestre est chargé de gérer tout le monde dans sa commune et que lui-même soit locataire auprès de ses administrés.
Oui.
Donc, le prestige même de sa fonction est bâti en brèche. Et déshonoré.
Oui.
L'idée de départ, c'est que les hauts cadres de la République, qui représentent l'État, tant au pouvoir central qu'au niveau provincial, ou au niveau local, ne doivent pas être des locataires. Alors, depuis cette année-là, le déploiement a été fait à telle enseigne que dans toutes les provinces, à l'époque on les appelait ça des districts, il y en avait d'abord au départ deux. District de Boma et district de Elisabethville. Dans tous ces districts-là, ensuite, 3, 6 et 11. Aujourd'hui, nous avons maintenant 26 provinces.
Oui.
Alors, ça a commencé d'abord par 2, 3.
D'ailleurs, 6. On a créé 26 provinces, il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas de logements.
Nous allons en parler aujourd'hui. Oui. Alors, donc, dans ces districts-là, on a mis, par premier investissement, on a mis les logements, les résidences officielles de tous les hauts fonctionnaires qu'on envoie. Les hauts fonctionnaires principaux, c'était le gouverneur général, qui aujourd'hui est l'équivalent du président de la République, le gouverneur général. Mm-hmm. Il y avait des gouverneurs de district. Tous devaient avoir la meilleure résidence du district. La meilleure résidence. Et s'il vous plaît, lorsque vous allez dans toutes ces provinces, parce que la résidence du gouverneur général, le premier gouverneur général, qui se trouve à Boma, elle est toujours conservée aujourd'hui. C'est devenu un musée, donc
un lieu touristique.
Vous sentez qu'à l'époque, aucun privé ne pouvait avoir une résidence aussi prestigieuse. Donc, la logique de l'État, c'est que l'État doit être au-dessus. Donc, les privés ne doivent pas avoir mieux que l'État.
Que l'État.
Pour que les agents de l'État, les cadres, les représentants de l'État ne puissent pas envier les privés. Ce qui fait que le numéro 1, c'était le gouverneur général, les différents autres numéro 1 des services. Ça veut dire le numéro 1 de la justice, le premier président de la cour d'appel, ou à l'époque c'était le tribunal de première instance,
avaient une résidence plus ou moins équivalente à celle du gouverneur du district.
Alors, qui sont ces hauts cadres qui doivent être bien logés dans les meilleures conditions?
Donc, c'est d'abord les cadres qui représentent tous les... On appelle ça les cadres des services extérieurs de l'État. Ça veut dire tous les services centraux représentés en province. Les représentants de la justice en province. Donc, le premier président de la cour d'appel, le procureur général, l'auditeur militaire supérieur, le premier président de la cour militaire, le directeur provincial des impôts, le directeur provincial de la DGRAD, et j'en passe. Voilà. Tous ces services de l'État, au sommet d'abord, tous doivent être logés. Et vous savez, la colonie, depuis la date que j'ai citée ici, a mis des dispositifs pour que dans chaque province, si vous allez à Lubumbashi, toutes ces autorités-là ont des logements. Si vous allez à Matadi, toutes ces autorités-là que je cite ont des logements. Si vous allez à Bukavu, à Kisangani, si vous allez en Mbujimayi, je ne cite que ces provinces-là. Si vous allez à Mbandaka, ces autorités-là ont
des logements, officiels.
Mais le drame maintenant, évidemment, l'état actuel,
c'est qu'au fur et à mesure,
on a morcelé les résidences parce que c'était des résidences avec tous les conforts.
Avec des grands espaces.
Avec des grands espaces, des piscines. Il y avait tous les conforts. Par exemple, lorsque j'ai visité dernièrement la résidence du premier président de la cour, du tribunal de première instance, des consternations civiles. Ça veut dire Bukavu. Mm-hmm. C'était l'équivalent de la résidence du gouverneur des provinces de l'époque. Parce que c'est au moins l'une des résidences qui est encore gardée plus ou moins intacte. La résidence du gouverneur des provinces du Sud Kivu. Depuis l'époque coloniale, depuis ça a été construit dans les années 38, jusqu'à aujourd'hui.
C'est toujours en bon état.
C'est toujours en bon état et plus ou moins sa superficie moins menacée que partout ailleurs. Alors, on n'a plus construit. Alors, lorsque nous pouvons résumer rapidement, après l'indépendance, Mobutu a pris toutes ses résidences officielles de service comme étant la résidence du chef de l'État. Donc là, c'est à 60. Donc après 60, disons, lorsque Mobutu prend le pouvoir, d'abord par le premier coup d'État et le second coup d'État. Et c'est devenu donc des résidences du président de la République, alors que c'était des résidences des différents gouverneurs de district. Et l'entretien s'est effondré.
Il n'y a pas d'entretien. Voilà,
on a pris entretien et aujourd'hui, la situation est lamentable. Les quelques provinces qui ont si je prends l'étendue du territoire national, qui ont construire des nouvelles résidences du gouverneur. C'est l'éclatement de la première. Donc, le premier essai qu'on a fait, l'éclatement d'une province, c'était la province du Kivu, qui a donné trois provinces, Maniema, Sud et Nord Kivu. Eh bien, la résidence est restée pour le Sud Kivu, mais les Maniema ont construit et le Nord Kivu a construit.
Alors, Maître Ruffin, quelles sont les dispositions légales par rapport au logement, aux résidences et aux cadres de l'État?
Principalement, ce que j'ai lu, ça n'a pas changé. Que c'est l'État qui loge.
Jusqu'à ces jours,
ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. L'arrêté n'a pas changé.
Oui.
Et c'est donc l'État qui loge les hauts fonctionnaires dans les lieux de son affectation.
Oui.
Ça veut dire,
vous êtes le bourgmestre de Makala.
C'est ça le principe.
Oui.
Vous devez être logé, ta résidence, c'est trop. Le drame, c'est que nous l'avons dénoncé plusieurs fois sur cette antenne. Ça veut dire quoi? Nous avons découpé, nous n'avons pas fait suivre le découpage d'un budget pour l'installation. L'installation de quoi? Les infrastructures qui
arrivent. Ça n'a pas suivi, on a créé 26 provinces, il n'y a pas de résidence.
Ça fait plus de 30 ans,
oui.
On a fait autant, on a créé des tribunaux, on a créé des parquets, on n'a jamais fait suivre ça d'aucun budget. Et ce sont des bâtiments abandonnés dans lesquels on met telle police, tel service de sécurité, tel parquet, tel
tribunal. On récupère les
bâtiments
les
abandonnés.
Oui,
on
même les immeubles des particuliers, on récupère.
Ça, c'est l'incarnation principale de l'effondrement de ce que nous avons dit dans l'émission passée. L'attaque de la colonne vertébrale de la nation, ça veut dire par la corruption et le détournement, parce que là, vous avez les effets de ces deux infractions-là, la corruption et le détournement, parce que tous les bâtiments publics qui devait loger tous les hauts fonctionnaires et tous les fonctionnaires, parce qu'il y a les hauts et les fonctionnaires
ordinaires, les fonctionnaires, oui,
doivent être logés. Vous arrivez, par exemple, dans une province comme l'ex-Katanga ou l'ex-Chaba. Tous les fonctionnaires de l'État étaient logés. Alors, les maisons sont parties où? Aujourd'hui, lorsqu'on se bat ou non, tel privé, on a détourné sa maison. Mais les maisons de l'État, que les privés, les politiques ont détourné. C'est plus ou moins l'infraction pour laquelle on ne peut pas pardonner les politiques d'espolier
ou de, vendre les maisons de l'État.
De morceler, vendre et tout ce qui... Donc ça, c'est un festival pour lequel nous devrions être implacables par rapport aux politiques. C'est pourquoi j'ai sali la mémoire ou l'arrêt de la Cour suprême qui a condamné celui dont on a parlé la fois passée, Olivier Kamita Tumasamba, pour avoir vendu l'ambassade. Vous imaginez une inconscience?
Vendre l'ambassade.
Vous vendez l'ambassade et on vous suit. Vous êtes parti acheter des villas à Bruxelles. De l'argent de l'ambassade. On l'avait condamné à 10 ans de prison avec privation de tout droit de l'exercice de ses droits civils et politiques. Mmh. Et il en est mort sans qu'il ait la possibilité de revenir encore à des charges publiques. Parce que tout simplement, c'est une infraction qui détruit l'ossature de l'État, la colonne vertébrale, et nous, en tant que nation, nous devrions être implacables pour que tous ces officiels n'aient pas de problème en ce qui concerne le logement. Nous allons donc parler, en ce qui concerne particulièrement la résidence du gouverneur général, donc c'est la résidence du chef de l'État.
Du chef de l'État.
Qu'est-ce qui en est arrivé?
Même par rapport au chef de l'État, on a suivi, on n'a jamais eu
c'est
de
pourquoi nous attendons d'abord que les auditeurs.
D'accord, on va accueillir trois auditeurs.
Et vous nous allons abonner.
D'accord. Que dit la loi par rapport à la résidence, au lieu de résidence des officiels, des hauts cadres de l'État? Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi. Mwami nous appelle de Loma, il est à Luena. Et puis Jonas Kabinda nous appelle de Kananga.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 10h05, 19h05, rediffusion mercredi à 15h30.
Que dit la loi congolaise à propos de lieu de résidence des officiels? Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour, et quelle est votre question?
Oui, bonjour Monsieur Jody, et bonjour également à notre invité. Nous saluons la thématique alignée à ce jour. Je juge quand même inacceptable, et voire même inconcevable, par exemple, une autorité d'une entité quelconque, jugeant peut-être de résider loin de ses administrés. Je n'arrive pas à comprendre. Je pense que la loi dans notre pays existe et il appartient à ceux-là qui doivent l'appliquer, la faire appliquer et de saisir la balle au moins de pouvoir accompagner cette mesure. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une politique, il y a une politique de distanciation entre, bien sûr, les dirigeants, voire même les dirigés. À qui revient la faute? À qui la faute? On attribue à qui la faute? Je pense que d'une part, en majeure partie, c'est à des différents gouvernements qui ont eu à décider dans notre pays, qui ont été vraiment impuissants et incapables d'agir pour ne plus que mettre une politique en place et octroyer à tous ceux qui sont chargés et qui œuvrent pour l'État d'avoir un peu de résidence. Vous vous rendez compte au jour d'aujourd'hui? D'une part aussi, c'est les législateurs congolais qui nous semblent qu'ils sont presque aux abonnés absents. Ils sont là, vous défilez dans l'hémicycle sans toutefois initier une loi dans cette mesure que sont d'octroyer. Regardez au jour d'aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Pourquoi? Ils ont voté pour connaître 26 provinces. Mais dans ces 26 provinces, aucun gouverneur, on a des gouverneurs qui résident ailleurs, et voilà, ils ne sont pas prêts de les administrer. Et voilà, quand il y a une insécurité dans une entité quelconque, on ne sait pas retrouver où est le bourgmestre. Et de telles choses, je pense que notre État doit prendre vraiment des mesures qui s'imposent pour mettre vraiment, assainir un peu, mettre de l'ordre vraiment dans ce pays.
Merci.
Moi, je ne sais pas, vous regardez au jour d'aujourd'hui,
merci,
un gouverneur qui est loin de s'administrer,
oui,
un bourgmestre qui n'est pas loin de s'administrer, c'est vraiment inacceptable.
Merci Jérémy Mwamba. On va donner la parole à Mwami qui nous appelle de l'UNA, dans le Haut Lomami. Mwami, bonjour. Mwami, vous êtes à l'UNA, bonjour, il n'est plus là. Jonas Kabinda de Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à Maître Fin, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kati.
Bonjour.
Oui, ma préoccupation est la suivante, Monsieur Jody. Nous ressentons une certaine inquiétude ici à Kananga.
Oui.
Où il y a quand même, si peut-être partout ailleurs, ça manque ou ça peut manquer, mais néanmoins à Kananga, il y aurait certaines maisons de l'État. Alors, que dit la loi lorsque un officiel de l'État refuse de bonne foi d'habiter dans une résidence officielle, vous allez permettre la tautologie, une résidence officielle lui a loué et il place des locataires dont lui-même est bailleur et l'agent construit ses poches. Et deuxième préoccupation, que dit toujours la loi lorsque un officiel ou un haut cadre, un haut fonctionnaire a spolié une maison de l'État et l'a vendue pour se procurer une autre parcelle et y habiter. Si je posais cette préoccupation parce que nous constatons ici à Kananga, la plupart de nos gouverneurs depuis un temps n'habitent pas dans la maison officielle qui est là. Il y en a qui ont leur propre parcelle. Et les gouvernements...
Jonas, pourquoi toutes ces personnes, ces gouverneurs n'habitent pas dans la résidence officielle? Quelles sont les raisons?
Il y a des locataires et puis là où, dans le propre parcelle où ils habitent, l'État est en train de louer encore, le gouvernement.
Et il y a des locataires dans...
Les lieux limités aux résidences, mais il y a aussi des véhicules, parce qu'il y en a qui ont spolié des véhicules, ou bien le véhicule de l'État qui est donné pour, comme moyen de transport est vendu pour s'acheter notre véhicule, et dès qu'il est limogé, il s'en va avec ce véhicule-là et l'État fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit la loi en tout ça, parce que eux qui font ça sont censés mieux connaître cette loi que nous tous qui intervenons aujourd'hui. Voilà mes préoccupations, M. Frissin va tenter de me répondre aujourd'hui. Merci.
Bien. Platini Mbombo de Mbandaka, bonjour.
Je dis bonjour, bonjour les invités, bonjour tout le monde.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup, je dis pour la thématique. Je trouve que c'est très important parce que vous avez bien signifié la résidence officielle des autorités, entre autres, les gouvernements de province, y compris aussi le membre, comme le président de l'Assemblée provinciale ou nationale, tout ça. Alors je dis, moi j'ai une question que je peux vous dire, pas une question mais une suggestion que moi je vis, j'ai vécu chez nous à Mandakalevaka, parce qu'ici, la fois passée, hein, nous avons un gouvernement, qui est sortant un gouvernement Borel, que je ne peux pas citer des noms, qui vient, il est venu, il s'est présenté au niveau de l'Assemblée, il se trouve lui comme gouverneur. Mais il se fait que ce gouverneur-là, il n'a même pas une maison ici chez nous, le canton, que je vois Mbandaka, moi je suis. Ah, c'est ça. Et après, le député provincial qui l'a élu, lui demande que, est-ce que chez vous avez une maison ici? Lui répondant, je n'ai pas une place parce que moi, je n'ai pas grandi ici, je suis passé dans la ville de Mbandaka. C'est comme ça que moi, je fais, à part avec le gouverneur qui veut passer ici. Alors moi, je voudrais poser la question d'éviter parce que le maître qui est aussi bien avec vous, il est très bien placé pour comprendre tout ce qui se passe, surtout sur le plan qu'on parle aujourd'hui. Alors, est-ce que il n'y a pas un système qui demande aux députés provinciaux, avant de lui, un gouverneur de province, il doit d'abord déclarer son bien, tout sorte autant de la maison qu'il a. Parce que souvent, quand on voit un gouverneur de province, et le premier président de la cour d'appel, demande au moins dans 10 jours que chaque membre du gouvernement provincial, le gouverneur de la province, de lui déclarer leur bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire déclarer avant qu'il soit élu un gouverneur?
D'accord.
C'est ce que je voulais quand même demander à l'UP.
Merci Platini Mbombo de Mbandaka. Qu'est-ce qu'il a alors par rapport au lieu de résidence des officiels? Glody, vous êtes à Bandunduville. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question?
J'ai juste une petite témoignage, après une question. Ici, dans la ville de Bandundu, on ne sait pas, il n'y a plus de camps. Tous les camps sont vendus par monsieur Y parce qu'il a été ceci, il a été cela. Alors, on ne sait pas. Quelle est la loi prévoit par rapport à cette infraction? Parce que...
De quel camp vous faites allusion? Vous parlez des camps militaires, c'est ça?
Je vais commencer à citer, oui, les camps militaires. Nous avons les camps Corimanda, les camps Ratra, les camps... Donc, il y a beaucoup de camps qui sont vendus, donc ça me fait quand même mal. Il y a aussi des résidences qui sont vides jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, si vous allez à côté de la ville, à côté des cours d'appel, il y a des résidences qui sont vides, des directeurs des provinces ne sont pas là dans les résidences, ils louent ailleurs. Alors, tous ces problèmes, on ne sait pas. Alors, par rapport à ces terrains qui sont vendus, parce qu'aujourd'hui, le militaire fait la sécurité la nuit parce que s'ils sont ensemble, ils sont de même camp. Aujourd'hui, le militaire, il est dans les quartiers Y, quartiers X. Alors, s'il y a une intervention la nuit, comment est-ce qu'il peut se regrouper pour intervenir à ces problèmes? Voilà les vrais problèmes. Alors, qu'est-ce que la loi prévoit par rapport à cette faute? Parce que les terrains de militaires sont vendus. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces problèmes et quelle est la sanction qui
prévoit
par rapport à cette faute?
Merci bien. Maître Lucien Doucan.
Oui, mais ils ont parlé de beaucoup de choses à la fois. Mm. Merci pour leur intérêt par rapport à la situation.
Commençons par Kananga. Le gouverneur ou l'autorité refuse d'occuper la résidence officielle. Il occupe une autre maison, il place des locataires et lui-même perçoit
l'argent. Vous voyez ? Donc nous avons dit ici que pour que l'État soit neutralisé, anéanti, plus ou moins dans l'État où il s'est retrouvé aujourd'hui, il faut neutraliser la sentinelle des valeurs. Et la première sentinelle qui nous protège tous, qui a été neutralisée le premier, c'est la justice. On ne peut pas continuer à s'amuser comme... Il y a un procureur général à Kananga. Il y a un auditeur supérieur à Kananga. Qui tous ont pouvoir sur le gouverneur. Tous deux. Le procureur général, près la cour d'appel, et l'auditeur supérieur, chacun à ce qui les concerne dans l'ordre de ses attributions. Ils ont pouvoir d'arrêter les gouverneurs.
Qui font ce genre de choses.
Et ça, c'est un détournement, c'est de la corruption. Est-ce que ceux qui sont là ne le voient pas? Nous l'avons dénoncé combien de fois? Donc ça veut dire, nous avions d'ailleurs même proposé que l'on puisse révoquer les PG qui n'ont pas un bilan par rapport à leur mandat. Ça veut dire un PG, lorsqu'il fait 5 ans, un procureur général, il doit dire il a arrêté combien de personnes dans le cadre de ses attributions.
Voilà.
Il a arrêté combien? Il doit dire ça à la nation. Parce que c'est important que les procureurs généraux arrêtent ceux qui violent la loi. Sinon, nous allons continuer à nous plaindre.
Et c'est au
les
vu, dirigeants, c'est au vu aussi de tout le monde, ces gens de choses.
Qu'ils pratiquent, il met locataire.
Mais locataire, et il perçoit les loyers.
Tu t'imagines le niveau de la corruption de ces dirigeants-là. Le niveau de la pourriture de la personne.
Et c'est bien
prennent même les véhicules officiels. Il y loue les véhicules officiels. Ça se trouve dans une agence de location VIP. Les véhicules officiels. Et le procureur est au courant. La seule personne qui peut arrêter un gouverneur en province, c'est le procureur général. Qu'est-ce qu'il faut? Nous les réclamons, ça fait combien de temps? Mon Dieu, est-ce que nous les insultons à les demander de faire les actes de leur profession? Arrêtez les gens qui violent nos lois. Nous n'irons nulle part si on doit continuer. Regarde.
Une résidence officielle, vous permettez de la vendre.
Non, vous la vendez. C'est celui qui a vendu l'ambassade. L'ambassade signifie la République de la RDC, la République du Congo au Japon. Vous vendez toute la République. Imaginez l'idée de la personne. Une ambassade représente tout le pays. Lui a vendu tout le pays. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui peut se réveiller. Je vends la province du Congo central. Voilà, et on le laisse.
Et vous la vendez.
Et il la vend, il ouvre le commissionnaire et il la vend. Donc dans notre pays, on a déjà vendu une partie de la République. C'est l'ambassade au Japon.
Oui.
Mais on a sanctionné ça.
On a sanctionné.
Nous disons donc que ça ne doit pas continuer. Parce que l'état actuel des choses, la colonie nous a légué des résidences, même du plus bas, ça veut dire l'administrateur du territoire. Il était mieux logé que tout politicien de la capitale, l'administrateur du territoire. Parce que dans sa résidence, il y avait tout.
Mais comment expliquer...
Groupe électrogène,
oui.
Tous les moyens pour rendre Ruffin,
comment expliquer un bourgmestre d'une commune, il n'habite pas dans cette commune-là.
D'abord
il n'y a pas de résidence.
Non, la première explication dans la commune, parce qu'on a fait le découpage, plusieurs communes n'ont pas reçu de résidence. Donc c'est à peine qu'ils ont reçu des bâtiments de la commune. Donc, il n'y a pas de résidence.
Alors, en conséquence, même avec les provinces, les 26 provinces, les infrastructures n'ont pas suivi.
Alors, mais qu'est-ce que fait les gouverneurs qui sont partis là-bas? Nous avions reproché ça au ministre de l'Intérieur de l'époque. Il s'appelle Boshab. On lui avait dit, vous ne pouvez pas découper sans budget. Il faut un budget. Maintenant, aujourd'hui, on a le résultat. Et nous lui avons même dit sur cette antenne et dans d'autres occasions que, monsieur le ministre de l'Intérieur, découpage au Congo signifie tribalisme. Tout le monde va prendre la famille. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On ne fait même pas l'évaluation. Nous l'avions dit. Ils seront énervés parce que nous les dénonçons maintenant. Nous l'avions dit. Que découpage au Congo signifie tribalisme et régionalisme. Maintenant, regardez comment nous sommes enchevêtrés dedans. Dans le tribalisme et l'ethnicisme. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas de telle province, de telle coin, vous ne pouvez plus diriger ces coins-là. Alors tous n'ont pas de résidence. Alors la conséquence, c'est qu'ils occupent les résidences des ISP, des ISC. Par exemple, l'une des provinces du Banoundou. Nous avons vu un gouverneur chasser les DG de l'ISP pour que lui occupe sa résidence. Ça n'a rien à voir. C'est un abus de pouvoir.
Ici, il y a les résidences officielles du Premier ministre. On a vu aussi un Premier ministre qui a été
déclaré. Alors, en ce qui concerne la capitale, je vous donne donc la précision.
Vous voyez ce qu'on appelle aujourd'hui primature. Primature, ça c'est la résidence du gouverneur général. Donc c'était la première résidence du président de la République. Et son bureau était où? Le bureau était à côté, ça veut dire le palais de la nation. Donc la résidence du gouverneur général et le bureau, palais de la nation. Que nous avions transformé à l'époque, après l'indépendance, au Parlement, et ensuite, ce qui s'est devenu aujourd'hui la présidence. Mmh. Donc, la résidence du gouverneur général, c'était celle-là, donc président de la République. La résidence du Premier ministre, maintenant, existe ici à Gombe, ici.
Dans quel état?
Mais dans quel état? Parce qu'on n'entretient plus. Nous vivons comme à l'époque du Moyen-Âge, de la cueillette. Nous jouissons seulement. On vous donne même l'argent de l'entretien, vous bouffez, vous êtes en train de construire ta maison. Donc c'est cette histoire d'intégrité des dirigeants est fondamentale. Nous ne nous en sortirons pas si
quelqu'un a dit même les camps militaires, les résidences des officiers militaires vendus.
Du commandant région, du commandant de la base, du commandant, ils sont vendus. Et ça passe. Et on les sanctionne. Vous imaginez, nous avons... une statistique de...
Mais la loi, apparemment, la loi est restée muette par rapport à ce genre de...
Mais ça, c'est protégé par la protection des biens de l'État. Le détournement, l'infraction de détournement, c'est pour protéger les biens de l'État. Mmh. L'infraction de corruption, c'est pour protéger les biens de l'État. C'est pour protéger la colonne vertébrale de l'État. N'est-ce pas? Les fonds en écriture, c'est pour protéger les biens de l'État. Que les biens de l'État doivent rester intègres. Il y a donc plusieurs infractions qui ont été érigées. N'est-ce pas?
Mais pour les cas spécifiques, quelqu'un qui se permet de vendre une résidence officielle, une résidence de l'État, qu'est-ce qui est prévu comme sanction?
Mais ça, c'est le code pénal. C'est le code pénal qui interdit que les biens de l'État ne peuvent... D'abord, les biens de l'État sont des biens du domaine public. Les biens du domaine public, en principe, ne peuvent pas être vendus. Ne peuvent pas se vendre, tout simplement, parce qu'il faut d'abord les désaffecter. Il faut les sortir du domaine public. C'est-à-dire, les biens du domaine public de l'État sont invendables.
Oui.
Ça veut dire, à tout moment, on peut faire annuler. C'est-à-dire, maintenant, tu vois, pourquoi nous revenons toujours sur la justice? Parce que la justice a le pouvoir de faire annuler la vente et de condamner la personne à plusieurs années et qu'il ne reviendra plus jamais dans les affaires. Nous venons de citer l'arrêt qui a donné l'exemple. Donc, en conclusion, nous devons...
Platini de Bandaka dit qu'avant de délire les gouverneurs, il faudrait que les députés
provinciaux
s'assurent qu'ils déclarent leur bien.
La Constitution a dit toute autorité congolaise, avant d'entrer en fonction et après la fin de son mandat, doit déclarer ses biens. Tu es entré avec combien de parcelles, avec combien de comptes en banque, avec combien de véhicules, et lorsque tu sors, tu les déclares, et la loi dit que toutes ces déclarations-là, on les envoie ça aux impôts, qui a le pouvoir de vérifier, donc aux impôts, le service d'impôt, qui a le pouvoir de vérifier comment as-tu quitté de 2 à 20 maisons. Comment tu as fait? Avec la possibilité que le service des impôts peut exproprier avec l'aide de la justice tout,
récupérer tous les biens mal acquis.
Oui. Et ces gens s'enrichissent. C'est pourquoi vous voyez maintenant aujourd'hui que la seule profession pour laquelle tout le monde court, c'est la corruption, c'est la profession de la honte.
La politique.
La politique qui signifie la corruption. Tout le monde court parce qu'on peut être nommé le 1er janvier et le 1er mars, on a déjà 4 ou 5 maisons. Voilà. Tout le monde dit non, voilà l'Eldorado, ce n'est plus le ciel. C'est la politique. L'impunité est totale.
L'impunité
et nous allons continuer à crier comme des chiens qui aboient. Et nous continuerons à faire notre travail. Nous dévorons.
Mais même la résidence officielle, le palais présidentiel, on n'a pas de palais présidentiel.
Mais c'est le grand dommage. On avait des palais présidentiels.
Dans
très rapidement. Oui. Oui. Mais je viens de citer d'abord la résidence qui est
du gouverneur en général.
Du gouverneur
général.
C'est ça d'abord la première résidence officielle.
Oui.
Elle est devenue quoi, primature? Donc nous n'avons pas construit. Nous n'avons pas de primature. Nous avons transformé la résidence. Nous avons détourné. Nous avons désaffecté la résidence du président de la République en primature. Et on se tape la poitrine. Oh non, voilà le changement de ceci, cela. Mais nous n'avons rien fait. Alors, en ce qui concerne par exemple le GLM. Le GLM là qu'on a zaïrianisé. Cette entreprise là est devenue avec l'OBEMA un bien de l'État. C'est ainsi que
Laurent-André
Kabila a mis l'état-major des renseignements militaires de la présidence, donc de la garde républicaine. Et ensuite c'est devenu la résidence, après sa mort, la descente du président de la République qui a suivi. Mais ça c'était un bien de l'État. Zaïrianisé, ça veut dire bien mal acquis que l'État a repris. Et donc, en principe, ça doit demeurer la résidence comme l'un des présidents l'a affecté comme président, résidence officielle, ça devait le demeurer parce que c'est un bien zaïrianisé pour mal acquisition. Tous ces gens-là avaient reçu ces biens-là pour finir la dette, à crédit, personne n'a fini le crédit. C'est ainsi que l'Obema avait récupéré tous ces biens-là. Mmh. Et donc, nous ne pouvons pas nous retrouver dans un pays où le président de la République n'a pas de résidence. Ça, donc, vous voyez là où la corruption nous a amené le détournement. Nous ne pouvons pas être dans un pays, après environ 50 ans d'indépendance, avoir un projet maintenant de construire un palais présidentiel. Ça n'a pas de sens.
On va accueillir Katiaï de Kanyoka et Evariste de Mbujimaï. Katiaï, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama et bonjour à monsieur Rifin Logo.
On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur Jody. J'ajoute, parce que un auditeur de Cannes en avait déjà parlé de ce qui se passe ici. Monsieur Jody, nous sommes sous le joug de la dictature nous imposée par les actuels officiels commis à Kananga pour diriger. Non seulement à Kananga, mais partout ailleurs, parce que nous commençons à le constater. Monsieur Jody, en 2015-2016, la partie de la résidence officielle a été vendue au vu et au su de tout le monde, sans qu'aucun acte de procédure ne soit amorcé pour mettre la main sur les gouverneurs qui avaient vendu cette partie de la résidence officielle. Là. C'est un autre témoignage que j'ajoute par rapport à ce que l'auditeur là avait dit. Car cela ne tient pas que nous sommes dans le
une partie de la résidence officielle du gouverneur vendue
par le gouverneur.
Monsieur Jody, je pèse bien mes mots. En 2015, une partie de la résidence officielle du gouverneur, je cite même les noms, le gouverneur Kande, demandez-lui, il peut répondre devant votre micro. Il l'a vendu et bon, ça créait un problème dans la province. Les gens ne savaient pas quoi faire. L'Assemblée provinciale n'avait pas pris un acte. Donc, tout le monde a constaté, mais rien n'a été fait. De deux, M. Jody, à Kananga, M. Jody, nous avons des bourgmestres. Un bourgmestre qui est bourgmestre de la commune de Kananga, mais qui habite dans la commune de Lukonga. Qui est de Katoka, mais qui habite dans la commune de Ndesh. Ils n'ont pas de résidence dans leur lieu du travail. Même leur propre résidence. C'est pourquoi je voulais demander à M. Rifin Loko. Les droits, vous l'avez détaillé, M. l'expert, M. l'analyste, M. le juriste. Nous en sommes où? Parce que ce qui se passe là, c'est au vu et au su de tout le monde. Nous en sommes où? C'est pourquoi moi je voulais demander à ce que le service d'Obema puisse être réinstallé. Pour jeter, c'est la question maintenant. Quelques maisons de l'État sont achetées par certains officiels. Il y a un général qui achète des maisons de l'État ici. Je jette les noms pour garder sa dignité. Monsieur Jody, c'est pourquoi je voulais demander à l'invité. Un officiel, peut-il acheter une maison officielle? Et à quelles conditions?
Merci. Evariste, vous êtes en Mbujimaï. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs qui se sont déjà exprimés, à tout le monde.
Quelle est votre question par rapport au sujet du jour?
Ok, monsieur Jody, merci bien de m'avoir passé la parole. Avant de vous poser une question, je voulais vous dire d'abord ce qui nous préoccupe ici dans la ville de Mbujimaï concernant la radio Okapi. Ici, en Mbujimaï, je peux dire, je dis Daniel Kachama, c'est à peu près 95% des personnes qui écoutent la radio Okapi. Mais ce dernier temps, les mois écoulés, jusqu'à l'instant, on ne capte pas bien la radio Okapi.
D'accord. La préoccupation sera transmise au service technique de radio Okapi. Alors, revenons maintenant au sujet du jour. C'est quoi la question rapidement?
Ok, merci bien. J'ai observé un certain comportement malsain que je n'admire pas auprès de nos autorités. J'ai un exemple d'un athée du territoire de Lupatapata. Lui a un palais dans son territoire. Il a refusé de loger là-bas. Il a préféré d'être toujours dans la ville. Après, les palais qui pouvaient céder peut-être à une autre autorité territoriale. Il a pris ça, il l'a donné à son frère. Et est-ce que l'invité peut m'expliquer de très bien ce qui est à la base de ce comportement-là? C'est ça ma préoccupation. Donc, ce qui me préoccupait, c'était pour l'émetteur de la radio Okapi ici en Mbujimaï.
D'accord.
Merci beaucoup, je dis de la parole.
Bien, J.R. Motambo, vous êtes à Bumba. Bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour monsieur journaliste, et je salue en même temps tous les auditeurs de Radio Capitale.
Quelle est votre préoccupation, Gilles?
Oui, mais non, l'émission là, vraiment c'est une émission très capitale. Chaque fois que votre invité là intervient, je me réjouis d'écouter tout ce qu'il dit là. Est-ce qu'on pourrait prendre quelqu'un comme ça, on le place dans un service concerné pour pouvoir éradiquer ce qu'il y a comme la corruption et ainsi de suite? Moi, j'appelle spécialement pour parce qu'on ne veut pas de la main d'œuvre ici. J'interviens pour que ce monsieur-là, une fois on le nomme, on le donne en poste comme ça, et je m'appelle Hermétique, qu'il m'appelle à ce numéro pour que je sois avec lui en ce qui concerne la poursuite et l'arrestation de tous ces gens-là.
Oui.
Donc prenez mon numéro, je n'ai pas beaucoup à dire ici à la radio cette antenne.
D'accord.
Parce qu'on aura beau dire, on aura beaucoup parlé,
mais c'est
nous qui vont faire quelque chose dans ce pays.
D'accord.
On ne va pas importer les autres.
Merci J.M. Voilà. Motambo de Bumba. Maître Rifaloukou, vous avez la parole.
Non, David, ce que nous faisons J.R. c'est pour servir la République. Nous les servons déjà. Donc nous ne les faisons pas pour chercher des postes. Nous contribuons déjà,
oui.
Parce que nous sommes
réveillés la conscience par rapport.
Radio Capi est convaincu avec tous ses auditeurs que le Congo ne va pas changer sans nous, sans notre contribution, chacun à ce qui les concerne. Mmh. Donc là où vous êtes, M. J.R., vous devez vous aligner déjà à donner votre contribution dans tout ce que tu peux prendre comme initiative de développement. Donc c'est chacun, le Congo
chacun
ne
dans
pas
son secteur
sans
peut contribuer,
peut contribuer
à changer
ce pays, à ce que les choses changent. Mmh. Et c'est ça l'engagement de nous tous. Alors la question de Kachai, c'est que est-ce qu'un officiel peut acheter un billet officiel,
peut vendre une partie de la résidence
d'abord,
officielle,
est-ce qu'un officiel peut acheter un billet officiel? D'abord la réponse est non. D'abord un officiel ne peut pas vendre et non plus ne peut acquérir, c'est interdit. On appelle ça le délit d'initié. D'initié au conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas.
C'est un conflit. Il y a conflit d'intérêts.
Un billet de l'État,
oui.
Et vous l'achetez vous-même. Regardez combien.
Alors que vous êtes fonctionnaire de l'État.
Vous êtes fonctionnaire de l'État, représentant de l'État, vous vendez les billets de l'État et vous l'achetez vous-même.
Vous-même.
Ça ne signifie rien d'autre que la pourriture, la corruption. Et ça s'est fait dans plusieurs provinces. Ça s'est fait à Kinshasa, dans plusieurs provinces. Nous reviendrons plusieurs fois sur le rôle de la justice. Parce que la justice, c'est elle qui a reçu le pouvoir de garder les valeurs et de réprimer ceux qui violent de loi. Et ce genre de gouverneur, comme celui dont tu as cité, qui a vendu une partie, il doit répondre. Nous avons pourquoi
donc la partie vendue peut être récupérée à
tout moment. Et on démolit tout ce qu'on a érigé là-dessus.
Oui.
À tout moment. Vous imaginez, la personne est vivante et elle est à Kinshasa. Il se la coule douce le plus calmement possible, comme s'il n'avait rien fait. Pour dire que non, c'est lui qui va arriver, toi aussi vendre la partie qui reste. Tu vas te la couler douce aussi, de la manière. Vous voyez, le rôle de l'impunité. Donc, que cela se fasse à Kananga, que ça se fasse à Mweneditu, que ça se fasse à Mwanda, que ça se fasse à Dilolo, que ça se fasse à Arouariwara, eh bien, nous devons apprendre à réprimer ça. Et les magistrats qui ne font rien en termes d'arrestation, de répression de ceux qui violent les lois comme ça, eh bien, ces magistrats-là, nous n'en avons pas besoin. On doit les mettre dehors, ils rentrent dans leur village pour faire les...
Parce alors, que les magistrats... Nous rappelons aux auditeurs qui peuvent intervenir en nous appelant 081-890-6394. Alors, Kachai veut savoir quel est le service de l'État qui est chargé de gérer les biens immobiliers de l'État.
D'abord, il y a le... Tu as entendu parler d'un Konkonyang qui était ministre de l'urbanisme et habitat.
Et habitat.
L'urbanisme gère un certain nombre d'immeubles. Le ministère de l'UTPR, travaux publics, infrastructures, gère une autre partie. Donc, voici les ministères, c'est pourquoi chaque fois qu'il y a remise et reprise, ces services sont là pour s'assurer. Il a trouvé les PV d'entrée, de son entrée, et combien il a trouvé, dans quel état, et combien il laisse, et dans quel état. C'est important, mais depuis longtemps, depuis une trentaine d'années, il n'y a pas de sanctions pour ceux qui ont dénaturé, qui ont vendu. Il a trouvé une superficie d'une résidence de, disons, 50 mètres carrés, il le laisse à 35, et aucune sanction. Et vous allez apprendre que non, il était gouverneur, maintenant il est le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est cette impunité-là qui a fait que tous ces gens-là continuent à se moquer. De... Et
mais pourquoi,
ils ne veulent plus lâcher le pouvoir.
Pourquoi on ne punit pas? Nous avons des textes, des sanctions. Pourquoi on n'arrive pas à punir?
Mais c'est ce que la communauté internationale maintenant nous réclame. Lutter contre la corruption. On ne punit pas parce que la corruption a neutralisé tout le monde. La corruption.
La colonne vertébrale de l'État
est neutralisée. La colonne vertébrale. Non, nous, Tokoma Buka Bukado, nous marchons avec des béquilles. Parce que la colonne a été anéantie par la corruption et le détournement. Ça veut dire, celui qui devait veiller sur ces valeurs-là, la justice,
a été anéanti.
Non, totalement neutralisé. Totalement. Ça veut dire, nous avons dit que pourquoi on ne sanctionne pas? Parce que les politiciens se battent chaque jour pour que la justice ne soit pas indépendante. Ils se battent chaque jour, ils dorment au cimetière pour que jamais la justice ne soit pas indépendante. Parce que si la justice est indépendante, le premier criminel arrêté, ce sont les dirigeants. Parce que c'est santé qui font le grand criminel. La grande criminalité, le grand crime, c'est santé. Lorsqu'une personne détourne à lui seul 50 millions de dollars, comment vous allez sanctionner celui qui a détourné 1000 dollars et celui de 50 millions, lui, c'est la coule douce, il a des hôtels en Afrique du Sud, il a des hôtels à Paris, à Cape Town, Roquebrune, Cap Martin, voilà. Ça veut dire la justice ne fonctionne pas.
Alors, vous avez suivi la question d'Evariste Mbujimayi. Un administrateur du territoire refuse d'occuper la résidence officielle, mais la cède
à son frère,
à son petit frère ou grand frère qui habite là-bas.
Et l'État lui donne le loyer pour sa propre résidence, là où il va rester.
Oui.
Vous voyez le niveau de la corruption.
Et là, et lui-même perçoit cet argent.
Il perçoit cet argent, il fait ce qu'il veut. Voilà, donc c'est l'amusement, c'est le festival, c'est la fête. Donc on danse dans la corruption, on nage dedans.
Alors, parce qu'est-ce qu'il faut faire maintenant
donc, pour... Le président de la République, nous avions proposé la fois passée, pour que nous ne puissions pas être redondants sur le thème, nous avions proposé la fois passée que la justice actuelle, dans sa configuration actuelle, est incapable d'affronter la corruption. Incapable. Il faut donc...
Pour créer des juridictions spécialisées.
Et des nouveaux hommes. Des juridictions spécialisées. Et les Congolais ont déjà... Qui peuvent faire l'affaire? Les Congolais, nous avons des compatriotes dans tous les domaines. Nous avons des dames, nous avons des hommes. S'ils sont mis dans de bonnes conditions et surveillés par la société civile et surtout la hiérarchie...
Mais il y a aussi la société civile. Pourquoi il n'y a pas tant de dénonciations? Parce que ce genre de situation devait être
dénoncée. Mais moi, je viens de la société civile.
Nous ne dénonçons pas. La société civile
ne dénonce pas. Toutes ces ONG, Azadon ne dénonce pas. Vous ne lisez pas les rapports, pour ne citer que cela. Toutes ces ONG ne dénoncent pas à Bukavu. Toutes ces ONG ne dénoncent pas à Kisangani, à Kananga, Mbujimayi, Bakongo. Congo central. Toutes ces sociétés civiles ne dénoncent pas. Donc, ça veut dire, on dénonce, on n'écoute personne. Vous rappelez que le pouvoir passé avait une célébrité de n'écouter personne. Vous marchez, mourrez comme vous voulez, crevez comme vous voulez. On n'écoute personne.
On va accueillir
nous devons les forcer à nous écouter.
En mettant en place aussi des juridictions.
Des juridictions spécialisées pour réprimer ceux qui s'attaquent à la colonne vertébrale, ça veut dire à notre ossature, ça veut dire l'État. Et ces infractions-là doivent être le plus sévèrement punies. Et je proposerai moi un projet de loi à quelques députés pour que la répression soit renforcée en ce qui concerne ce qui...
Donc, arriver d'abord à récupérer toutes les maisons, les résidences officielles vendues.
L'OBMA avait déjà récupéré toutes, mais par la corruption, on l'a remis une après l'autre. C'est lui, par exemple, qui avait 90 maisons. Il a remis au ministre à l'époque de la justice 10 maisons. On lui retourne l'ensemble.
On va accueillir Gaston Gandou et Jean-Paul de Colosi. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Ma première préoccupation, c'est que les maisons, les résidences officielles des autorités ne sont plus les plus belles. Bon, à l'époque, avec les constructions que nous voyons par-ci, par-là, vous savez, même l'administration elle-même, les gens qui travaillent dans leur bureau, vous verrez qu'ils sont médiocres, mais ils cherchent plus à aménager, améliorer, chaiser à la maison. Et c'est pour cela. On voit plus des autorités dans un pays, mais il a fait résidence propre et privée, que de se contenter de résidence qu'il avait laissé à l'époque, comme l'autre a dit. Mais moi, je pense aussi qu'il y a besoin aussi de construire ailleurs, comme on voit avec l'immeuble intelligent. Donc, vous construisez ailleurs, ça puisse répondre aux normes, parce que le gouvernement, ou soit les autorités, doivent représenter la force, doit présenter l'excellence. C'est un peu ce que j'avais à dire, mais je voulais aussi conclure pour dire que vous savez, avec la corruption, les agents de l'État, les fonctionnaires font que l'État puisse appauvrir et puis ils cherchent, ils veulent pas que les gens constatent qu'il y a l'argent qui sort des services de l'État.
D'accord.
C'est pour cela que tout le monde
il y a les constructions qui se font ailleurs. Il y a
d'accord, Gaston, on retient qu'il faut construire, et pas construire d'autres bâtiments pour les services publics, tels que l'immeuble, il a cité l'immeuble intelligent ici. Et on va accueillir Jean-Paul Décoloisi. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Monsieur Gilles.
C'est jeudi. Quelle est votre question, Jean-Paul?
Ma question est la suivante. Je suis policier.
Oui.
Par rapport à ce que vous venez de dire pour ce qui concerne les lois, pour les agents de l'État qui achètent ou bien qui revendent les biens qui appartiennent à l'État congolais. Nous, par exemple, les policiers, nous n'avons pas de maison. Aujourd'hui, dans l'État militaire, pour s'installer là-bas, vous devez acheter une maison. Nous achetons des maisons pour s'installer avec nos enfants, nos femmes. Parce que avec les salaires qu'on nous donne, ça ne suffit même pas pour avoir un loyer à la cité ou bien quelque part. Par exemple, ici dans la ville de Kolwezi, les Kandilala, ils sont en train de vendre ça. Ils ont vendu une grande partie. Le temps est en train de disparaître par le colonel P3 de la province ici. Il est en train de vendre le camp au vide au-dessus de tout le monde. Il y a des grandes maisons qu'on a tenté de construire là-bas, de grandes parcelles. Le temps ne fait absolument rien. On n'a même pas une justice. Il n'y a même pas l'auditorat militaire qui poursuit tout ça. Alors, c'est ça la question que j'ai cherché à poser à l'invité.
Mmh.
Nous, par exemple, nous avons acheté une maison pour rester avec la famille. J'ai acheté la maison au camp à 1 000 $ pour rester avec ma famille au lieu de commencer à payer ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'il propose pour nous?
D'accord. Merci Jean-Paul. Maître Rufin Lucour.
Bon, d'abord, il faut rappeler, je dis que l'État est vague, abstrait. Il est incarné, c'est le Platon, par les bâtisses. C'est pourquoi vous avez vu à Rome et Athènes.
Athènes, ouais.
C'était quoi? Des grandes bâtisses. Non, l'État, c'est d'abord les constructions. Lorsqu'on voit les palais du peuple, on voit l'État. Lorsqu'on voit les palais de la nation, on voit l'État. Lorsqu'on voit les bâtiments intelligents,
l'immeuble,
on voit l'État.
L'immeuble intelligent.
L'immeuble intelligent, on voit l'État. Lorsqu'on voit Sosacom, on voit l'État. Mm. Lorsqu'on voit les bâtiments des 30 jours à Lubumbashi, on voit l'État. Lorsqu'on voit, disons par exemple, l'hôtel de ville de Lubumbashi, parce que c'est l'une des meilleures bâtisses abritant un hôtel de ville.
Et l'hôtel de ville de Kinshasa aujourd'hui a un nouveau bâtiment.
Bon, ça n'équivale pas à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Donc, lorsque vous voyez ces bâtisses, vous voyez l'État. Lorsque vous voyez le palais de justice dans toutes nos provinces, le meilleur palais de justice du Congo se trouve à Kokilatville, ça veut dire à Mbandaka. Le Sego, c'est celui d'Elisabethville et Lubumbashi.
Oui.
Vous voyez l'État. Donc, il a raison de dire qu'il faut qu'on construise. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons, on ne peut pas nommer quelqu'un ministre ou gouverneur et ceci, cela, s'il n'a pas prouvé ce qu'il a déjà fait pour l'État, pour la collectivité.
Mmh.
Il doit prouver ce qu'il a déjà fait de palpable dans son histoire, pour que ça ne soit pas toujours nous nommons déjà qui sont là uniquement pour vendre tout ce qu'il a trouvé. A fait qu'il ait aussi une résidence.
Jean-Paul est policier. Maintenant, même dans les camps, là,
dans les cas, il doit... C'est une réalité connue. Ça veut dire que les policiers, les militaires vont dans les cas Konkolo et les cas qu'il a cités à Kolwezi pour avoir un espace et y construire. Parce qu'il n'y a plus de logement. Ça, c'est connu. Et ce sont les commandants qui sont à
la manette. Il y a même des policiers.
Ça, le président de la
les policiers, il a une maison qu'il a achetée au camp.
Oui.
Il aménage, il laisse des locataires civils. Lui, il va habiter.
Voilà le pratique. Non, tout simplement, le président de la République est très loin. Ses représentants sont la justice militaire, en ce qui concerne le cas de Kolwezi, et la justice et le parquet. Ça veut dire, si le parquet doit toujours rester au bureau et n'est pas allé constater ses infractions, le pays est sans espoir. Donc, il faut qu'il y ait
donc, tout cela, c'est à cause, on peut dire que les procureurs sont sur le banc
des accusés. Ils sont les responsables numéro un de cette pourriture parce que l'impunité se sentait. L'impunité, ça veut dire l'absence d'arrestation. Tu vois, le policier a pleuré parce que où est l'État? Où est la justice militaire? Où est le parquet? Où est le gouvernement? Parce qu'il parle de MP3. Ça veut dire un chargé des opérations, soit de la police, soit de l'armée, qui est en train de vendre.
Donc, le gouvernement oui.
n'est même pas au courant. Donc, l'Assemblée provinciale, pas au courant. Donc, ça veut dire tout simplement, il faut qu'on repense. Je vois un musicien qui disait que non, Toban de la Kozala. Ça veut dire qu'il faut qu'on repense notre existence et surtout notre vision par rapport
à la façon dont nous laissons les gens s'enrichir.
Alors, on peut se dire qu'avec le ton qui a été donné pour lutter contre la corruption, on arrivait là.
Nous tenons ces taux-là et nous voulons absolument que d'abord, ça commence par la justice. La qualité de ceux qui dirigent la justice ne va pas permettre à ce que nous avancions. Il faut déjà que nous savons qu'ils sont engagés, et même intègres, ils sont engagés à réprimer toute violation de nos lois. Le malheur de notre pays, c'est que nous avons de bonnes lois. Les politiciens, la plupart, ne veulent pas qu'on les applique parce que les lois vont les éclabousser eux-mêmes.
Mais ça doit changer. Il faut que ça change.
Et donc, lorsque le chef de l'État dit que non, les gens qui ont mené ce pays à ce niveau-là ne doivent plus se retrouver dans le gouvernement, il a raison et il doit être soutenu par nous tous. Ces gens-là ne peuvent plus revenir aux affaires parce qu'ils n'ont rien en tête que la corruption et le détournement. Donc, dès qu'on le nomme, la fête commence, l'amusement commence, le festival commence, et il fait encore 10 ans, il n'a rien fait.
D'accord.
Il faut que déjà là, nous puissions le mettre hors d'état de nuire et ne pas continuer à faire le rompre de notre pays. Le pays doit se redresser.
Maître Lucien Louko, juriste et chercheur en droit, merci et à la prochaine.
Je vous en prie.